Grand Colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Donc j'ai un peu laissé filer le temps parce que Michel Cartier n'est pas là, je ne sais pas où il est. Il avait confirmé sa présence, ou en tout cas sa participation, et une hypothèse que l'on m'a soumise est qu'il s'est trompé de lieu et qu'il erre du côté du quai Conti à la recherche du... Je n'en sais rien, enfin c'est... Bon, qui sait. Enfin bref, nous n'aurons pas d'exposé, du moins ici, aujourd'hui, sur les guerres paysannes en Chine à l'époque impériale, ce qui est fâcheux, à moins que M. van der Merch puisse improviser, comme ça, un exposé, mais ce serait trop lui demander, peut-être. Non.
Pour dire simplement ce qui m'est apparu dans les exposés précédents comme intéressant pour faire ressortir des choses.
L'originalité, ça vous tente d'improviser quelque chose
ou... Peut-être après.
Après, bon, d'accord. Alors, était prévu et présent, Jean Meyer, qui sait tout sur la Christia, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire les Christeros, qui va nous en parler à nouveau. Il va nous expliquer très en détail, je suppose, de quoi il s'agit, en tirer la substantifique moelle. Vous avez la parole.
Bon, je remercie le président Bechler de cette invitation. Et je ne ferai pas de cinéma, donc je montre simplement une image que je considère comme représentative de la dimension paysanne de ce grand soulèvement des paysans mexicains catholiques entre 1926 et 1929. On pourra discuter pour savoir s'il s'agit d'une guerre civile ou simplement d'une guerre qui oppose l'État et son armée à son peuple, ce qui est peut-être différent d'une guerre civile. C'est pas une guerre de tous contre tous, du père contre le fils, du fils contre le père, et de l'ami contre l'ami, comme on l'a dit aujourd'hui. Alors, ceci dit, si c'est une guerre faite par les paysans mexicains dans un pays qui est rural à 75% encore à cette époque-là, c'est quand même un chapitre de l'histoire globale de la Révolution mexicaine, et aussi de l'histoire mondiale de l'Église catholique, parce que des phénomènes qui peuvent sembler n'avoir aucune relation avec le Mexique, comme l'appui donné par le pouvoir soviétique au schisme de l'Église vivante, a finalement des conséquences au Mexique, puisqu'il a contribué à déterminer la ligne romaine, celle du Vatican, et qui est la réponse à une initiative du gouvernement mexicain. Donc, ça dépasse largement l'histoire rurale, l'histoire de la paysannerie. C'est un chapitre du conflit entre l'État et l'Église, peut-être un des derniers chapitres du conflit entre l'État dans le monde catholique latin, et l'Amérique latine est une extrême Europe catholique, même si le terme est venu tard, le terme de latin, Amérique latine, c'est un terme qui dit bien ce qu'il en est. Le conflit entre l'Église et l'État au Mexique est une vieille histoire, il commence pratiquement au moment de l'indépendance, quand l'État... Le nouvel État mexicain a prétendu hériter du patronat royal qui était exercé par les rois d'Espagne sur l'Église, un contrôle absolu sur l'Église. Au XIXe siècle, il y a eu une très importante, longue, dure guerre civile entre libéraux et conservateurs, où l'élément religieux a un rôle important. Ça a été prolongé par l'intervention française et l'Empire de Maximilien. Ça fait 10 ans de guerre civile et de guerre étrangère. Et puis, il y a un calme, il y a politique de conciliation jusqu'en 1910. 1910 commence la révolution mexicaine, qui au début n'est absolument pas anticléricale, ni même anticatholique. Mais malheureusement, le président Madero est assassiné au cours d'un coup d'État réactionnaire en 1913. Et il y a une guerre civile qui dure jusqu'en 1920. Et la faction qui triomphe, disons, elle a une aile radicale, anticléricale. Et dans la constitution, la nouvelle constitution du Mexique, rédigée en 1917, il y a des articles de combat qui sont radicalement anticléricaux. Alors, pour que des articles constitutionnels aient effet, il faut qu'ils soient réglementés. Et fort prudemment, les présidents mexicains, entre 1917 et 1925, n'ont pas réglementé ces articles, qui n'ont donc pas été appliqués. Alors, pour des raisons qui tiennent à la politique intérieure mexicaine et qui seraient d'abord trop longues et ensuite inutiles d'expliquer, en 1925, le groupe au pouvoir crée un essaie de créer un schisme dans l'Église catholique. Il essaie de créer une Église catholique apostolique mexicaine. En rupture avec Rome, avec un patriarche, on fait venir deux évêques orthodoxes en exil, un du Canada, un des États-Unis, et ils intronisent ce patriarche Pérez, un schisme qui n'a absolument pas prospéré, puisque une douzaine de prêtres ont rejoint le mouvement schismatique dans un pays où il y avait 5000 prêtres. Mais Rome a eu très peur à cause de ce qui se passait à ce moment-là en Union soviétique, où, oui, le schisme de l'Église vivante, à un moment donné, c'est un peu la lutte des classes au sein de l'Église orthodoxe russe. 70% des prêtres orthodoxes ont rallié cette Église. Le peuple n'a pas suivi, donc les églises dont étaient titulaires ces prêtres étaient vides à ce moment-là. Mais dans la curie romaine, qui connaissait très mal la situation du Mexique, on a eu tendance à considérer à ce moment-là que ce qui se passait au Mexique, ce qui se passait en Union soviétique, allait se passer au Mexique. Cette tentative d'église schismatique a échoué, a fait long feu, mais elle a mobilisé les catholiques, qui ont créé à ce moment-là une Ligue nationale de la défense des libertés religieuses, et il y a eu, si vous voulez, une montée aux enchères, l'État ripostant à la création de cette Ligue par une série de mesures, et finalement décidant de réglementer les fameux articles de la Constitution. Et c'est ce qui s'appelle... Alors, le président de l'époque était un homme d'État remarquable, fondateur de la plupart des institutions du Mexique actuel. Et s'il ne s'était pas embarqué dans le conflit religieux, je pense qu'il serait considéré comme le plus grand homme d'État mexicain du XXe siècle. Il s'agit du président Calles, un général révolutionnaire. Attention, quand on dit les généraux révolutionnaires, il s'agit de civils, ce ne sont pas des militaires professionnels, ce sont des civils qui se sont engagés dans la révolution et qui sont montés en grade. Il était donc général, il a été gouverneur de son état natal du nord du Mexique, le Sonora, et il est président de 1924 à 1928. Et ensuite, il restera le pouvoir derrière le trône jusqu'en 1934, jusqu'à ce que le président... Le jeune président Cárdenas, qui était sa créature, ait commis l'assassinat du père, mais à ce moment-là, il l'a simplement mis dans un avion et il l'a expédié aux États-Unis. Donc le président Calles donne l'ordre de légiférer, de réglementer ces articles qui sont passés à l'histoire comme la loi Calles. Je cite un seul point de cette loi, parce que c'est le point décisif, qui provoque la décision de la curie romaine. Il est dit dans la loi qu'aucun prêtre, aucun ministre du culte, on ne parle jamais de, on ne distingue pas entre les religions, aucun ministre du culte ne peut exercer s'il n'est pas enregistré et s'il ne reçoit pas une licence professionnelle de la part du ministère de l'Intérieur. Alors à Rome, on fait la connexion entre l'Église vivante soviétique et cette mesure. Et les cardinaux de la Curie analysent et disent « Mais si le pouvoir mexicain donne la licence à des prêtres schismatiques ou à des hommes mariés ou à n'importe qui et pas à mes prêtres, qu'est-ce qui va arriver à l'Église catholique ?» Et c'est une intrusion inadmissible dans la vie intérieure de l'Église catholique. Et à ce moment-là, Rome ordonne aux prêtres de ne pas obéir à la loi. La loi va entrer en vigueur le 1er août 1926. Et donc, entre le moment où elle est publiée au journal officiel le 2 juin et le 1er août, il y a 2 mois d'une tension extrême où les catholiques ramasse 2 millions de signatures, un pays de 15 millions d'habitants, 2 millions de signatures demandant l'abrogation de cette loi. Le Congrès déclare, le Parlement déclare irrecevables les pétitions qui sont simplement mises à la poubelle. On a donc le schéma que nous présentait le professeur Berset, à savoir une période de tension, les tentatives, les présentations des doléances. Et tout cela ne sert à rien. À ce moment-là, personne ne pense à une lutte armée ou à un soulèvement armé. Mais les évêques, les plus radicaux des évêques, qui ne sont pas très nombreux, à l'époque il y a 38 évêques au Mexique, et il y en a une dizaine qui proposent la suspension du culte public. Une grève, si vous voulez, de la part de l'Église catholique. Il y a une minorité qui est absolument opposée, puis il y a un marais au milieu qui demande à Rome de parler. Or, Rome ne répond pas. Maintenant, les archives sont ouvertes. Benoît, quand j'ai fait ma thèse là-dessus, les archives étaient fermées, aussi bien celles de l'Église mexicaine que celles de l'État mexicain que celles de Rome. Maintenant, tout est ouvert. Et Rome ne répond pas et répond seulement à la troisième supplique de l'épiscopat mexicain, pratiquement à la veille du 1er août. Et Rome répond, on lui demande si Rome est d'accord pour la suspension du culte, qui est quand même une mesure extrême qui n'avait jamais été prise dans l'histoire du Mexique et de peu de pays. C'est un peu l'équivalent de l'interdit proclamé sur un pays. Et Rome ne répond pas à la question. Rome répond simplement, il est interdit d'obéir à la loi Calles et il faut à tout prix maintenir l'unité du corps épiscopal. Et les éléments radicaux disent, vous voyez ce que dit le pape, donc pour maintenir l'unité, suivez-nous dans la suspension du culte. Le culte est suspendu. Les dernières journées du mois de juillet, la nuit du 31 juillet, sont vécues dans une ambiance absolument fantastique de fin du monde, les gens faisant la queue pour se confesser, pour se marier, pour faire baptiser les enfants. Et la dernière messe est célébrée dans les dernières heures, donc 11 heures du soir, minuit, de la journée du 31. Et à l'époque, j'ai interviewé des gens qui vivaient en Corse, c'était dans les années 60, et ils me disaient que c'était une ambiance de fin du monde. Quand la messe était terminée, on a éteint les lumières, on a soufflé les bougies, la lumière rouge du Saint-Sacrement s'est éteinte, le prêtre est sorti avec le viatique, et on s'est retrouvé dans cette situation là. Le lendemain, l'État a riposté en déclarant l'Église était locataire des temples, des églises, puisque les églises sont propriété de la nation, comme en France. Et puisque le locataire s'en va, nous sommes obligés de faire l'inventaire. Pour que le jour où il reviendra, il ne dise pas qu'on a volé les calices, les tableaux, les statues. Et donc, ordre de fermer les églises et que les notaires publics aillent faire l'inventaire. Mais d'abord, on appose les scellés. Et lorsque, un jour ou deux jours après, le 2 août, le 3 août, le notaire public se présente pour faire l'inventaire, il trouve l'église pleine de monde, généralement des femmes et des enfants et des vieillards, les hommes restent prudemment à l'extérieur, et ils ne peuvent pas entrer. Réaction du président Caïs, on envoie l'armée, on tire, le sang coule, et les gens se retrouvent souvent aux quatre coins du Mexique, hein, dans la ville de Mexico, dans la capitale, mais aux quatre coins du Mexique aussi. Donc les gens se retrouvent en situation d'insurrection, sans s'y être préparé, sans l'avoir vraiment voulu. Alors, je me souvenais, quand j'écrivais ma thèse, je me souvenais de mes études françaises, et je me souvenais de la crise des inventaires au moment de la séparation de l'Église et de l'État en France, et qu'il y avait eu quelques paysans pyrénéens, bretons, peut-être auvergnats, qui s'étaient opposés aux inventaires et qui avaient, je crois qu'il y avait eu une dizaine de morts dans...
Deux.
Merci. Deux. Et à ce moment-là, Clémenceau, qui n'était pas spécialement clérical, a envoyé un télégramme, si je ne me trompe pas, sous votre correction, à tous les préfets, en disant que tous les inventaires ne valaient pas le sang d'un seul Français. Il aurait pu se passer la même chose au Mexique. Du point de vue de la loi, du point de vue juridique, il n'y avait aucun problème. Mais malheureusement, le Mexique de 1926 ressemblait plus à la France de Louis XIV et des Camisards qu'à celle de 1905. Et je dis, en toute intention, je dis les Camisards parce que on peut m'accuser de tous les péchés d'anachronisme, mais c'est vraiment le soulèvement populaire auquel je pourrais comparer les cristeros. Alors, évidemment, il y a des éléments modernes qui compliquent la situation. Si les paysans mexicains vont fournir 95% des effectifs de la rébellion, il n'y a pas que des paysans dans cette rébellion. Et il y a en particulier un phénomène qui a, pendant très longtemps, monopolisé l'historiographie et, d'une certaine manière, occulté le fait cristeros, c'est justement cette Ligue nationale des libertés religieuses. La Ligue est une organisation urbaine, et c'était une fédération de tous ces mouvements d'action catholique qui vont depuis l'action catholique ouvrière, l'action catholique de la jeunesse mexicaine, jusque à l'Union des Dames catholiques, qui avait des activités humanitaires, absolument pas politiques. Et il y a une aile dure dans la Ligue qui est représentée par des jeunes gens, ceux de l'action catholique de la jeunesse mexicaine, qui sont les frères ennemis, mais aussi les frères jumeaux des révolutionnaires. Ils en ont l'âge, ils en ont le dynamisme, et lorsque, entre août 1926 et décembre 1926, ils assistent à une quarantaine de soulèvements spontanés aux quatre coins du Mexique, à partir de la crise des inventaires, il leur vient à l'idée qu'ils pourraient monter sur un mouvement populaire jusqu'à la conquête du pouvoir. Non seulement pour que le gouvernement renonce à sa législation, à sa réglementation qui menace l'Église, mais pourquoi pas arriver par la voie des armes au pouvoir. Une révolution catholique, en somme. Bon, alors, certains d'entre eux ont rejoint le maquis. Aucun d'entre eux n'est arrivé. Ceux qui sont arrivés au maquis, généralement, étaient des étudiants. J'en ai connu plusieurs, étudiants en médecine, étudiants des ingénieurs en topographie. Ils étaient fort peu nombreux, ceux qui ont rejoint les rangs des combattants. Et la Ligue n'a jamais eu ni les moyens financiers, ni les moyens militaires de soutenir le mouvement armé, qui a toujours été un mouvement de paysans et un mouvement pauvre, sans aucune aide internationale. Il faut dire que c'est pas comme aujourd'hui où beaucoup de mouvements trouvent un financement international, criminel ou pas, mais à ce moment-là, les États-Unis, qui ont constamment intervenu au long de la révolution mexicaine, ont décidé de parier sur la stabilité. Donc plus de problèmes avec le Mexique. Il faut donc embargo sur les armes. Il y a quand même 3000 km de frontières terrestres qui facilitent la contrebande des armes. On ne vend des armes qu'au gouvernement mexicain, qui est considéré comme le gouvernement légitime. Donc c'est une rébellion de paysans qui reste seule. Un des chefs du... Ce que vous voyez là, c'est un peloton du régiment Valparaíso de l'état de Zacatecas. Un régiment au Mexique, c'est 500... C'est pas un régiment français, c'est 500 hommes. Et le chef de ce régiment, Aurelio Acevedo, me disait qu'il avait commencé... Lui, il s'était soulevé en septembre 1926. Il avait commencé avec 12 hommes, un cheval pratiquement sans armes, et lorsque, en août 1929, plus d'un mois après le retour de la paix, il avait présenté son régiment aux autorités mexicaines, aux autorités militaires, pour que ses soldats bénéficient des sauf-conduits, il leur a présenté 500 hommes et la liste des armes, et sur les 500 fusils Mauser, qui était le fusil réglementaire de l'armée mexicaine, 490 appartenaient à l'armée mexicaine, avaient été pris au cours des combats. Alors, c'est entre 1940 et 1980, l'histoire du conflit religieux au Mexique a été écrite par des catholiques, elle a été écrite par les gens de la Ligue ou par leurs successeurs. Donc c'est une histoire, d'abord c'est une hagiographie, et c'est une histoire qui ne parle pratiquement pas des cristeros. Elle parle des gens des villes, elle parle des prêtres qui ont été fusillés. C'est pas la guerre d'Espagne, hein. L'anticléricalisme mexicain n'est pas celui de la guerre d'Espagne. Entre 1926 et 1929, c'est 70 prêtres qui ont été ou fusillés ou pendus ou... sur 5000, et les évêques mexicains ont été arrêtés par la police, qui les a mis dans le wagon Pullman et qui les a envoyés aux États-Unis. Dans la guerre d'Espagne, je crois qu'il y a 5000 prêtres et 12 évêques qui ont été fusillés ou assassinés. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais ce sont eux qui ont écrit l'histoire. Et en face, pendant longtemps, on avait, disons, une histoire symétrique, écrite par les anticléricaux, et qui parlait essentiellement aussi de la Ligue, et qui disait, oui, il y avait des paysans dans ce mouvement, mais c'était soit des pauvres peones, un peu l'équivalent des serfs, qui étaient conduits par les grands propriétaires, contre la réforme agraire, ou bien c'était la garde blanche, encore un terme soviétique, la garde blanche, la Guardia Blanca, des grands propriétaires. Et rien, disons, de plus faux que ces deux histoires parallèles, symétriques, qui ont le grand tort de négliger la nature paysanne, rurale, et la motivation religieuse de ces cristeros. Alors, le terme même de la cristiada, je fais juste une petite parenthèse, Lorsque mon livre a été publié au Mexique, le comité de lecture, dans un premier temps, a refusé le titre en disant « Cristiada », le mot n'existe pas dans le dictionnaire de l'Académie royale d'Espagne, l'Académie de la langue. Effectivement, il n'existe pas. Ce qui est curieux, mais à ce moment-là, un linguiste mexicain a défendu le titre et en disant « c'est une superbe invention linguistique du peuple mexicain ». Et puis, c'est la dimension épique de l'Iliade, la Henriade. Bien. Or, il y a très longtemps, je ne savais pas ce que j'ai découvert il y a peu de temps, la Cristiade, eh bien, c'est un mot qui est utilisé au XVIe et au XVIIe siècle dans toutes les langues européennes pour les poèmes épiques sur le Christ. Marco Geronimo Vidal écrit en latin, en Italie. Le calviniste Albert Babino écrit une Cristiade en français en 1570. Le dominicain espagnol Fra Diego de Ojeda en castillan au Pérou. John Milton écrivit en 1671 une suite au Paradis perdu qui s'appelle The Cristiade, ou le Paradis retrouvé, reconquis. Je cite l'édition française de Bruxelles de 1753. Et puis, en 1673, il y a une Cristiade slave publiée à Raguse par un Palmatich. Donc, la Cristiade est un mot qu'on avait oublié. C'est sûr que le peuple mexicain ne connaissait ni Milton, ni Babino. Et puis, Voltaire, dans sa Marie Magdeleine, critique ce qu'il appelle les cristadiers, et il cite un monsieur d'Escorbiac, toulousain, et je n'ai pas trouvé la Cristiade de monsieur d'Escorbiac, mais Voltaire dénonce aussi Milton. Il dit que Milton est un cristadier. Voilà. Alors peut-être que ça serait la bonne traduction pour cristero. Une étymologie populaire, mais ça c'est la légende orale au Mexique, et je ne peux pas vous la garantir. Le cri de guerre des cristeros, c'était « Vive le Christ roi !»« Vive à Cristo Rey !» Et que, soi-disant, cristeros, c'est le sobriquet que les soldats de l'armée du gouvernement, de l'armée fédérale, leur auraient donné parce qu'ils criaient « Cristo Rey !» Et ça fait « cristero », ou presque. Enfin, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que le mouvement commence en 1926 de façon spontanée. La Ligue donne un mot d'ordre irresponsable. Elle convoque, mais publiquement, pour le 1er janvier 1927, un soulèvement général de tous les catholiques, sans armes, sans organisation, sans chef, sans argent. Et dans certaines régions où il y avait organisation catholique très implantée, les gens ont pris au sérieux le mot d'ordre du soulèvement. Alors c'est un soulèvement qui ressemble plus à un pèlerinage qu'à autre chose, parce que les gens sont sans armes, et il y a une croyance qui nous renvoie peut-être d'ailleurs à l'exposé de M. Berset et aux conduites d'Ancien Régime, à savoir qu'une mobilisation générale peut convaincre le pouvoir, qui en soi est légitime, de changer de conduite. Et donc, les foules dans certaines villes de province et puis dans beaucoup de villages du centre du pays, du centre-ouest du pays, les foules se rassemblent sur la place publique, assiègent la municipalité et il se produit le même phénomène, le phénomène qui a été mentionné tout à l'heure, souvent. On brûle les archives, on prend la mairie d'assaut, on élit une nouvelle municipalité et on brûle les archives. Dans cette première phase, dans ces premiers jours, il n'y a aucun mort. Mais quelques jours après, l'armée arrive et reprend village par village, région par région, reprend contrôle de tout cela. On a le témoignage de l'ambassadeur de France à cette époque-là, on est déjà en mars 1927, qui a une entrevue, dès le début, l'ambassade de France, qui n'est pas spécialement cléricale, essaie de jouer les bons offices. L'ambassadeur de France, qui n'a pas le titre d'ambassadeur, c'est une légation, l'ambassadeur de France, M. Perrier, qui est le doyen du corps diplomatique à Mexico, est un homme remarquable, les rapports du Quai d'Orsay sont remarquables, et il s'entend aussi bien avec le gouvernement révolutionnaire qu'avec les évêques. Et il essaie de faire les bons offices. Et donc, il nous rapporte qu'à ce moment-là, le président Calles lui dit « dans 3 semaines, ça sera terminé ». Et d'ailleurs, mes généraux me disent « ce n'est pas une guerre, c'est une partie de chasse, on tire les lapins ». Et malheureusement, ce n'a pas été 3 semaines, c'est une guerre qui a duré 3 ans. À l'époque, quand j'ai soutenu ma thèse, je n'avais disposé pas de chiffres. Bon, aujourd'hui, on sait que, à l'apogée du mouvement, en juin 1929, au moment où l'Église et l'État font la paix, il y a 50 000 rebelles dans un pays de 15 millions d'habitants. Il y a 50 000 rebelles. Pour ceux qui connaissent un peu la révolution mexicaine, je voudrais rappeler que, à son apogée, la division du Nord de Pancho Villa comptait 20 000 hommes, et que Emiliano Zapata, qui est un personnage qu'on ne peut pas ni ignorer ni diminuer, Zapata certainement n'est jamais sorti de sa région, mais à son apogée, il a 10 000 fusils sous ses ordres. Donc 50 000, alors c'est une guérilla. Ils sont pas, on ne peut pas parler de grandes batailles. Hein. La plus grande bataille, celle de Tepatitlan en avril 1929, il y avait d'un côté 2 régiments cristeros, et de l'autre côté, il y avait 3 ou 4, il y avait 3 régiments. Les régiments sont de cavalerie au Mexique, et les bataillons sont d'infanterie. Et donc, de l'autre côté, il y avait 3 régiments de cavalerie de l'armée régulière, 1 bataillon d'infanterie, et puis des irréguliers, une contre-guérilla dont je parlerai brièvement parce que c'est peut-être la seule dimension de guerre civile dans ce cas-là. Mais j'insiste sur cette dimension, 50 000. Hein, 50 000, un pays de 15 millions d'habitants, et un recrutement sociologique qui coupe dans tous les groupes ruraux. On ne peut pas trouver un facteur ethnique, parce qu'on a aussi bien les paysans, ce qu'on peut dire blancs, c'est peut-être politiquement incorrect, je ne sais pas comment il faut dire, de la région des Altos de Jalisco, que les paysans indiens des volcans de Colima, ou que les paysanneries métisses du centre du pays, disons entre Mexico et Guadalajara. Donc, il n'y a pas de clivage ethnique. On a aussi bien la paysannerie libre des moyens propriétaires, ce qu'au Mexique on appelle rancheros, que les petits paysans du minifundiste, que les paysans indiens des communautés, ce qu'on appelle les comuneros. De toute la société rurale, il n'y a que 2 absents dans les rangs des rebelles. 1, les grands propriétaires, le hacendado. 2, un personnage nouveau dans les campagnes mexicaines et qu'on appelle à cette époque-là l'agrariste, agrarista. Parce qu'a commencé une réforme agraire qui, à l'époque, est encore très limitée. La vraie réforme agraire viendra dans les années 30, à partir de 1932-33, et surtout sous le président Cárdenas entre 1935 et 1938. Où l'essentiel de la distribution des terres sera fait. Ceci dit, entre 1919 et 1926, on a quand même, les divers présidents mexicains ont, en plusieurs épisodes, distribué de la terre, souvent à l'occasion de crises politiques, de soulèvements militaires, pour récompenser des paysans fidèles. Et le problème, c'est que l'agrariste est organisé par le gouvernement. Et certains d'entre eux doivent un service militaire. Donc, au moment de la Cristiade, 30 000 agraristes sont mobilisés comme contre-guérilla, contre les cristeros. Ça, c'est l'élément de guerre civile. Parce que, effectivement, c'est paysan contre paysan. Un général mexicain dans ses rapports au gouvernement, au ministère de la guerre, dit « para los toros del Jaral, los caballos de aquí mismo », c'est-à-dire pour les taureaux du Jaral, qui est un lieu dit, les chevaux du même endroit, c'est-à-dire contre les cristeros, les agraristes du même endroit. Alors ce phénomène est relativement localisé dans l'espace, parce que la réforme agraire était à peine à ses débuts. Mais cela me permet au passage de laisser de côté la thèse initiale qui avait été reprise par deux historiens soviétiques, Rudenko et Alperovitch, à savoir que c'était la réforme agraire mexicaine qui avait provoqué ce soulèvement réactionnaire organisé par l'Église catholique qui était elle-même à la solde des grands propriétaires. Bon, la thèse ne tient pas la route parce que la réforme agraire n'avait pas encore eu lieu. Mais il y a effectivement cette présence de la contre-guérilla agrariste qui a la dimension de guerre civile. Il y a un cas symbolique où le chef agrariste, qui est non pas un vieux monsieur, il a 55 ans, mais il est déjà grand-père, et il fait fusiller son petit-fils, qui est dans les rangs cristeros et qui a été fait prisonnier par le contingent. Un mot sur la répression, ça a été une guerre atroce qui a les dimensions, là je dirais guerre coloniale. La guerre qu'un État et son armée fait contre son peuple, plus qu'une guerre civile, je considère que c'est une guerre coloniale. Je n'avais pas de chiffres, je vous disais tout à l'heure. Or, en 1986, le président du Mexique de l'époque, Miguel de la Madrid, est venu à Paris et André Fontaine l'a interviewé. Et première page du Monde, et puis une page entière à l'intérieur. Et à un moment donné, une des dernières questions que lui pose André Fontaine, c'est « Et aujourd'hui, les rapports entre l'Église et l'État ?» Et le président de la Madrid répond « Tout le monde a appris la leçon. On sait qu'il ne faut pas toucher à la foi du peuple mexicain. Ça nous a quand même coûté 250 000 morts. » Alors j'ai écrit à André Fontaine en disant « Mais est-ce que vous êtes sûr, il n'y a pas une erreur typographique, moi j'en étais resté à 100 000, hein, qui était le chiffre officiel. » Et il me dit, écoutez, non, je vous envoie la transcription de l'interview en espagnol et la traduction en français révisée par la présidence de la République du Mexique. Et le chiffre de 250 000 est confirmé. Puis des années après, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président et je lui ai demandé d'où est-ce qu'il sortait son chiffre. Et il m'a dit que c'était le général Luis Garfias, qui à l'époque était directeur des archives du ministère de la Défense. J'ai connu ce général, et qui après, il avait viré sa cutie. Il avait adhéré au parti de gauche, le parti de la Révolution démocratique de Cuauhtémoc Cárdenas, et il était sénateur, président de la commission d'histoire militaire. Et il m'a confirmé le chiffre de 250 000. Alors, il me dit 90 000 morts, c'est les combattants, aussi bien les guérilleros que les soldats, et puis le reste, c'est ce qu'on appelle maintenant les dégâts collatéraux, c'est la population civile, ça inclut non pas les gens massacrés ou fusillés, mais dans son impossibilité à réduire la guérilla, l'armée mexicaine a eu recours aux ce qu'on appelle les concentrations de population, pratiquées par Valeriano Weyler, le général espagnol de la dernière guerre cubaine, par les Américains aux Philippines, par les Anglais en Afrique du Sud. On définit un quadrilatère ou un hexagone sur la carte et on informe les populations qu'elles doivent sortir de ce périmètre, se reconcentrer dans une série de bourgades ou de villages qui leur sont indiqués, et que passé le délai, l'armée fusillera toutes les personnes qui seront rencontrées. Et on a procédé à 3 reconcentrations, qui ont toujours eu lieu en hiver. Et Mexique en hiver, ce n'est pas la France, mais ce n'est pas beaucoup mieux. La nuit, le thermomètre tombe quand même à 0. Et puis en janvier, il peut y avoir des pluies glaçantes. Or, les reconcentrations ont toujours eu lieu entre le 15 décembre et le 31 mars. Pourquoi ? C'est le calendrier agricole. Le 15 décembre, on a fini la récolte de maïs. Et le 1er avril, on commence les semailles. Et c'est au cours des concentrations qu'ont eu lieu au Mexique les dernières grandes épidémies de variole, avec fosses communes où on enterrait les bébés, les vieillards, les enfants, etc. Donc, c'est un événement qui a profondément marqué le Mexique, qui a traumatisé le Mexique. Pendant très longtemps, c'était un thème tabou, dont ne voulait parler ni l'Église, ni l'État. Il n'y a que depuis 1991, il y a eu une réforme constitutionnelle qui a aboli les fameux articles qui n'étaient plus appliqués, ils étaient lettres mortes, mais on a réformé la Constitution pour qu'il n'y ait plus cette possibilité-là. Et pour la première fois dans l'histoire du Mexique indépendant, on a établi des relations diplomatiques entre le Mexique et le Vatican. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à parler, que les archives ont commencé à s'ouvrir, et qu'aujourd'hui, disons, les mémoires ne sont plus des mémoires aigries ou rancunières. C'est un cas finalement assez positif de, comment dire, digestion d'un chapitre tragique de l'histoire du Mexique. Alors, je sais que récemment est sorti en France un film qui est très mauvais, qui s'appelle La Cristi... comment est-ce qu'il s'appelait ici ? Les Cristeros. Alors, c'est un film qui a été fait à Hollywood sur un scénario absolument délirant. On m'avait demandé si je voulais bien être le conseiller historique. J'ai dit oui, je veux bien lire le scénario. J'ai sabré le scénario à coups de crayon rouge. Et lorsqu'on m'a renvoyé la deuxième version, qui était à peine améliorée et qui ne tenait aucune compte de mes corrections, j'ai dit je n'ai rien à voir avec vous. Heureusement, j'avais accepté de le faire gratis pour Déo. Je n'ai rien à voir avec vous et je ne veux absolument pas que mon nom apparaisse comme conseiller historique, parce que c'est un film qui va absolument contre la vérité historique. Personnage inventé alors qu'il n'y a rien à inventer. C'est une histoire tellement foisonnante de faits impressionnants qu'il n'y avait rien besoin d'inventer. Et puis des personnages qui sont blancs dans la réalité sont noirs dans le film et l'inverse. Et en plus, le film était destiné, c'est pour ça qu'il parle en anglais, il était destiné pour les États-Unis avec l'idée que les émigrés mexicains qui perdent leurs racines retrouvent leurs racines. Or, c'est un film qui a été utilisé par la droite américaine lors de la campagne contre Obama et qui en particulier disait « Si vous réalisez Obama, il arrivera aux États-Unis ce que vous avez vu dans ce film ». Voilà, je termine sur cette digression.
Merci, là aussi. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je n'ai peut-être pas tout appris, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris, et ça entre tout à fait dans nos propos. Alors, il se fait vraiment très tard, je suis désolé, j'ai manqué d'autorité, mais M. Vandermeer, je crois qu'on passera sur la Chine, on essaiera de rattraper ça demain, si on peut, je ne sais pas. Je m'en excuse, mais M. Meyer prendra certainement des questions. Oui, Madame Lalouette, c'est bien ça.
Merci beaucoup. Je voulais vous poser deux questions. J'étais un petit peu étonnée de vous entendre dire que quand une armée intervient contre le peuple, il s'agit d'un schéma colonial. Est-ce que vous diriez que dans la France de juin 48 ou de la Commune, la répression est un schéma de type colonial? C'est une question que je voulais vous poser.
Oui. Bon, écoutez, peut-être que je pensais à les expériences de ma jeunesse. Je pensais peut-être à la guerre d'Algérie ou des choses comme ça.
Oui, parce que je ne vois pas pourquoi vous parlez de schéma colonial au Mexique. Je dois dire que ça m'échappe un peu.
Oui, je pense que la société française en 1848 était plus divisée. Donc ce n'était pas uniquement l'État ou l'armée. Bon, en plus, c'était la République quand même. Ce n'est pas du tout pour défendre les massacres de juin ou la Commune, n'est-ce pas? Mais disons... Mais c'est sûrement aussi un phénomène de culture et du temps de l'État et de la société mexicaine. C'est pour ça aussi que j'évoquais le XVIIe siècle français, les dragonades et les camisards. La facilité et la violence avec laquelle l'État mexicain pouvait faire massacrer son peuple m'avait quand même beaucoup impressionné à l'époque.
D'accord. Voilà. Et sauf si j'ai été distraite, je ne vous ai pas entendu parler de la position des évêques.
Vous avez tout à fait raison. Je voulais être bref.
Qui ont été hostiles, je crois.
Oui, trois évêques ont approuvé le soulèvement armé. Deux l'ont approuvé totalement. Le troisième avait essayé d'empêcher le soulèvement. Y compris, il y a une scène extraordinaire, c'est l'évêque de Guadalajara, et il ordonne à Anacleto González Flores, qui était un leader populaire et d'origine prolétarienne extraordinaire, et qui avait créé dans cet état de Jalisco l'Union populaire, sur le modèle des organisations allemandes, Volksbund, et qui avait absolument quadrillé tout l'état et la ville de Guadalajara. Et l'évêque lui dit, il n'est absolument pas question que l'Union populaire participe à ce soulèvement, puisque le mot d'ordre était arrivé de soulèvement. Et l'organisation était démocratique. Donc il y a une réunion de nuit clandestine, il y a 101 chefs et Anacleto González Flores. Et Anacleto dit, moi je suis contre le soulèvement armé, on va continuer par la lutte civique, y compris il a publié un article en disant, il faut faire comme Gandhi. Et puis il y a vraiment, Gandhi à l'époque, c'était moment où il était en action. Et sinon, eh bien, les chrétiens, comme les premiers chrétiens, doivent mourir dans le cirque, à genoux, sous la dent des lions. On vote 100 voix à faveur de la lutte armée, une voix contre, celle d'Anacleto. Il va voir l'évêque qui avait déjà pris le maquis, qui s'était caché, c'est un des rares évêques qui n'a pas été expulsé, qui a continué à administrer son diocèse pendant 3 ans dans la clandestinité, et il lui dit, ils ont voté pour la lutte armée, je n'ai rien pu empêcher. Rome a une... partage la responsabilité avec le gouvernement mexicain. Si Rome avait dit en juillet 1926, ne suspendez pas le culte, il ne se serait sans doute rien passé. La lutte aurait continué assez longtemps, et puis le président Calles se serait parti, et un président suivant serait revenu à une ligne sûrement. C'est arrivé après. Cárdenas a fait la paix religieuse, alors qu'il était personnellement anticlérical aussi. Mais lui, il a fait la paix religieuse. Mais Rome n'a pas répondu à la question des évêques. Ce télégramme ambigu est quand même extraordinaire. Alors, ceci dit, en 1932, le gouvernement mexicain a violé les accords de 1929 et il y a eu une véritable persécution religieuse. En 1935, quand le président Cárdenas arrive au pouvoir, il n'y a que 350 prêtres mexicains qui sont autorisés à exercer, sur 5000. L'archevêque de Mexico a 10 prêtres pour tout son diocèse. Il balaye lui-même son église et il célèbre 3 messes par jour, parce qu'il n'y a pas assez de prêtres. Bon. Et à ce moment-là, il y a deux pays qui sont condamnés par la Société des Nations, c'est l'Union soviétique et le Mexique, pour violation aux droits de l'homme dans le domaine de la liberté religieuse. Eh bien, à ce moment-là, il y a des paysans catholiques qui reprennent les armes. Rome leur interdit. Et plusieurs évêques excommunient les paysans catholiques qui ont repris les armes, à un point tel que ces gens-là que j'ai interviewés ne s'appellent plus cristeros, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Donc Rome a eu une ligne ambiguë au départ, et puis après, en 1932, elle a eu une ligne très très définie, en pariant qu'à moyen terme ou à long terme, ça s'arrêterait. Rome a gagné son pari. Mais les gens qui l'ont vécu, pour les gens qui l'ont vécu à l'époque, ça a été un scandale absolument terrible.
Il n'y a pas eu, de la part des Christéros, il n'y a pas eu un phénomène massif de rejet par rapport à Rome, aux évêques.
Bien, alors écoutez, curieusement, non. Alors que à l'époque, disons, l'aile dure des catholiques mexicains envoyaient des messages à Rome en disant « Vous allez provoquer l'apostasie de beaucoup de gens. Les protestants qui n'ont jamais réussi à convertir personne au Mexique vont entrer en masse. » Eh bien, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Ce qui dément l'analyse romaine, Rome disait « Le Mexique n'est pas un pays catholique, ça devrait être un pays de mission, c'est des Indiens. » Il y a un élément raciste dans la curie romaine à l'époque, qui, je pense, sans doute pas uniquement à cause du Mexique, hein. Je pense que ce qui devait dire de l'Asie ou de l'Afrique à l'époque, ça ne devait pas être très, très charitable. Mais pour eux, ils disent, un vernis de christianisme, et vous grattez un peu, il y a les idoles. Et par exemple, Rome se méfie beaucoup du culte marial de la Vierge de Guadeloupe, et ils disent, la Vierge de Guadeloupe, c'est une divinité indienne.
C'est pour dépasser l'horaire encore un peu plus. Bon, j'ai fait le compte sur ma calculette pour bien faire ressortir la violence. C'est exactement le bilan de la Révolution française. Sur la même durée de temps, 4 ans, pour le Mexique, donc ça représente 1,7% de la population. Et pour la Révolution française, c'est entre 1,5 et 2. Donc c'est exactement le même niveau de violence. Alors, ce qui, dans la Révolution française, la caractéristique, c'est que l'essentiel des morts, on enlève la guillotine, etc., c'est les guerres de l'Ouest. Oui. Donc, là, est-ce qu'il y a une géographie de la révolte qui ferait encore monter l'intensité ou le niveau de la violence? Parce que si je ne me trompe pas, des cristeros, il n'y en a pas partout. C'est quand même dans quelques régions très localisées, et surtout dans l'Ouest.
Oui.
Du pays.
Oui.
Hein, et c'est peut-être là où on peut avoir une dimension coloniale, entre guillemets, c'est-à-dire une guerre de citadins faite contre des paysans qui appartiennent presque à une autre espèce. Parce que dans le cas de la Révolution française, si la violence est si grande dans l'Ouest, c'est aussi parce que les armées républicaines affrontent des populations pour lesquelles elles éprouvent un mépris sans limite et à l'égard desquelles il n'y a pas de loi de la guerre qui s'impose. C'est-à-dire le mépris s'ajoute à la nature de la guerre civile,
oui,
qui délivre des freins, oui, à la violence.
Oui. Non, il n'y a pas la dimension ville contre campagne. L'armée mexicaine, qui en ce moment-là est en train de se construire, puisque la vieille armée de métier, qui était toute petite, celle du temps de Porfirio Díaz, avait été dissoute en 1914. Et à cette époque-là, le général Amaro, qui est un grand militaire, est en train de créer la nouvelle armée mexicaine. Mais c'est une armée de métier, mais les officiers sont à peine... Il n'y a pas encore l'école de guerre. Il va créer le collège de guerre, mais il n'y a pas encore d'école de guerre. Donc les officiers sont tous des gens sortis de la Révolution mexicaine, les généraux. Ce sont des civils montés à cheval, hein, spécialistes de la guérilla. Mais les troupes sont des troupes de mercenaires. Au bon sens du terme, hein, quand je dis mercenaires, c'est absolument pas dépréciatif. Il y a des régions du Mexique qui, traditionnellement, le sud, Oaxaca, la Sierra de Juárez, donne des soldats d'infanterie de très grande qualité. Ces gens-là, ils travaillent, ils sont pas dans leur région. Hein. C'est des paysans, c'est aussi des fils de paysans, mais c'est pas des citadins. Et puis il y a ceux qui ont été incorporés de force dans l'armée. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais en 1926, il y a eu la dernière guerre indienne de l'histoire du Mexique. C'est en début 1926, dans l'État de Sonora, comme par hasard, c'est l'État du président Calles. C'est la petite nation Yaqui, qui depuis 1870 était en rébellion constante, parce qu'on lui enlevait ses terres, on lui enlevait son eau. Le fleuve Yaqui, c'est une région désertique, et il y a un fleuve, le Yaqui, avec des terres d'une fertilité extraordinaire et qui peuvent être irriguées simplement par gravité. Donc 1926, la rébellion est écrasée, y compris on emploie l'aviation et les gaz, et 3000 combattants yaquis sont incorporés de force dans l'armée mexicaine. Donc c'est une armée un peu composite et qui n'est pas chez elle, dans les régions où elle travaille. Alors, vous avez raison, il y a une géographie de l'insurrection, mais qui est plus vaste que cela. Hein. Elle va depuis à l'ouest de la ville de Mexico, mais même à la banlieue de Mexico, parce que les anciens zapatistes ont repris les armes. J'ai trouvé du papier en tête d'un général zapatiste, qui était le bras droit de Zapata, c'est la division des volcans, et il a écrit « Agua, tierra y libertad », c'est la devise de Zapata, « Eau, terre et liberté, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe ». Vous avez la terre et le ciel. Hein. Et bon, ça va jusqu'à l'océan Pacifique, et puis au sud aussi, avec Colima et l'état de Michoacán. Mais alors, il y a un phénomène très intéressant. Le Mexique est un pays immense, et l'État fédéral ne contrôle pas tout. Et donc, dans les régions périphériques, les gouverneurs passent un accord sous la table avec l'Église, à savoir, on fait semblant d'appliquer la loi, mais on ne l'applique pas. En échange, vous contrôlez vos gens, parce que s'il y a un soulèvement, l'armée viendra et on ne pourra rien faire. Et alors c'est le cas de l'État d'Oaxaca, où j'ai trouvé toute la correspondance qui est absolument extraordinaire, où le gouverneur, le seul absent, c'est l'évêque qui est à San Antonio, mais le chanoine, je ne sais plus comment on appelle celui qui préside le chapitre des chanoines, le remplace, il est vicaire général, il exerce dans les bureaux de l'évêché, et donc il reçoit une lettre du gouverneur lui disant « J'ai des ennemis à Mexico qui disent qu'on n'applique pas la loi, vous savez que le séminaire est théoriquement fermé, lundi arrivent des inspecteurs de Mexico, s'il vous plaît qu'il n'y ait personne et que les scellés soient remis sur la porte. » C'est quand même fabuleux. Et dans l'état de Chihuahua, qui était celui de Pancho Villa, où avait été préparé un soulèvement qui aurait été, à mon avis, le plus fort, puisque les anciens villistes reprenaient du service, l'évêque convoque les chefs et leur dit « J'ai un accord avec le colonel Enriquez, le gouverneur, vous ne bougez pas. Le premier qui bouge est excommunié. » Et en Chihuahua, il n'y a pas eu de soulèvement. Et alors, une dernière chose sur l'intensité de la répression, les reconcentrations, d'une part, et la politique de la terre brûlée, d'autre part. Je vous avais dit 15-16 millions d'habitants. Entre 1926 et 1929, 2 millions sont partis aux États-Unis. C'est à ce moment-là que Los Angeles, Chicago, Détroit commencent à devenir des grandes villes mexicaines. Quand il y a la crise de 1929, bon, d'abord il y a la paix, et puis la crise de 1929. Un million, un peu plus d'un million, 1,2 million reviennent au Mexique. Mais 2 millions sont partis pendant ces 3 ans. Donc vous avez 250 000 morts et 2 millions qui sont partis. Ça donne quand même une dimension à la répression terrible. Et les descendants du général Amaro, le ministre de la guerre, ont remis les archives privées de leur père à la fondation Calles. C'est extraordinaire parce que c'est la petite fille du général Calles qui administre cette fondation, qui est privée, et où on a un accès public, et tout est sur Internet. C'est formidable, non? Et alors j'ai vu les archives du général Amaro. Il y a même des albums photographiques des atrocités commises par l'armée. Il y a un colonel qui est un ami du général Amar, un ancien compagnon de la Révolution, et qui lui envoie des albums. Il y a une photo, vous vous souvenez de cette photo qui a fait basculer l'histoire de la guerre du Vietnam? La photo du Time, du chef de la police de Saigon, qui... Eh bien, il y a une photo du colonel qui est comme ça. La première photo, c'est celui-ci est le curé Roman Adame. C'est un prêtre qui est assez corpulent et qui est déguisé en cheminot. Non, il a un costume, il a la casquette des cheminots, etc. La photo d'après, le colonel est comme ça, sur la tempe. Et la photo d'après, il y a le cadavre et il dit « c'était ». Le curé Adame. Je n'aurais jamais publié ces photos, mais maintenant, je sais qu'elles existent et qu'on peut les voir.
Bon, je crois que il est temps de non pas de conclure, mais de s'arrêter, puisque nous reprenons demain. Il va être 6 heures, nous avons très, très largement dépassé l'horaire, et M. Van der Merch très aimablement se proposait de tirer... Vous pouvez y songer peut-être ce soir. Vous venez demain?
Non, je viens après-demain.
Ben, après-demain, on...
S'il y a du temps.
Voilà. Et sauf si je peux repêcher Cartier, je vais appeler ce soir. Bon. En tout cas, merci à tous et je vous donne rendez-vous à ceux qui auront le temps demain à 9h également.